Bonjour et bienvenue pour ce 16e épisode de JT Sport, le podcast étudiant qui vous récapitule les actualités sportives de la semaine. Débutons avec du rugby, la France finit sur une bonne note ce tournoi des 6 nations avec sa victoire face à l'Angleterre. Pour le régional, nous reviendrons sur la performance du TFC en Ligue 1 qui fêtait par la même occasion son 87e anniversaire. Nous ferons ensuite un rapide tour d'horizon avec 5 actus marquantes de cette semaine. Un mot de football, on parlera de la belle performance des jeunes nantais en Youth League, qui nous permettra également de parler de la formation française. Cap sur les JO, on vous présente un nouveau sport qui verra le jour cet été aux Jeux Olympiques, il s'agit du breakdance. Pour finir, j'espère que vous avez bien révisé puisque je vous fais passer un petit quiz en fin d'émission. Aujourd'hui, Ernestine va nous faire un bilan rapide du tournoi des 6 nations qui a pris fin ce samedi 16 mars, voyant l'Irlande couronnée pour la deuxième fois consécutive. Et pour les Bleus, lors de ce dernier match, qu'est-ce que ça a donné contre l'Angleterre ?
On le sait, le crunch, comme on l'appelle, est l'un des matchs les plus emblématiques des 6 nations. Après une leçon donnée à Twickenham l'année dernière, les Français se devaient de tout donner pour ne pas subir un dur coup de bâton à domicile. Dans un tournoi serré, les Bleus pouvaient à la fois battre le 15 de la Rose, mais aussi viser la seconde place au classement. Inespéré pourtant après les matchs de la semaine passée. Et coup de chance, ça a marché. Première victoire à domicile pour le dernier week-end.
Dis-nous en plus, qu'est-ce qui a marché pour ce match ?
Après une large victoire à Cardiff, Galtier a fait le choix de garder exactement le même 15 de départ, espérant qu'il triomphe une nouvelle fois. Il faut croire que cette équipe ne s'en sort pas si mal malgré l'absence de gros cadres dont on a déjà parlé par ici. Une défense encore un peu faible face aux Anglais, mais offensivement, ça fonctionne. Même s'il faut le dire, les Bleus nous ont fait une belle frayeur puisqu'ils étaient menés au score à quelques secondes de la fin du match. Mais ça, c'était avant une magnifique pénalité de Thomas Ramos qui offre la victoire à l'équipe par 2 points, 33-31. C'est sur le fil certes et bien loin du résultat de l'année passée, mais c'est tout ce qu'il fallait pour sauver l'honneur après un tournoi qu'on peut tout de même qualifier de décevant.
Alors voilà donc pour la performance collective, mais est-ce que tu peux nous parler des individualités ? Qui personnellement a brillé ?
Tout d'abord Gaël Ficou, le numéro 13 de l'équipe de France, inscrit un essai parfaitement maîtrisé mais surtout totalement inattendu pour sa 90e sélection. Il a su faire déjouer les défenseurs adverses et se propulse sans opposition jusqu'aux lignes. Parlons aussi de Nolan Le Garec qui jouait comme titulaire pour la deuxième fois et a inscrit son premier essai avec les internationaux. Il avait déjà fait un match admirable la semaine dernière et a su prouver grâce à ce tournoi qu'il avait toute sa place dans le 15 de France. Et comment ne pas parler de Léo Barré, qui a été nommé homme de cette rencontre.
Et quel bilan général tu peux nous dresser pour ce tournoi ?
On peut dire que le 15 de France a bien sauvé les meubles, mais ça reste encore fragile. Des fautes qui ne devraient pas avoir lieu, des occasions manquées et surtout une défense assez faible. Le début du tournoi a été assez compliqué et les rêves des supporters français semblaient commencer à s'envoler après cette Coupe du Monde encore difficile à digérer. De nombreux absents, des blessures pendant le tournoi, etc. Mais il faut croire que Galtier a su trouver des solutions et ça a fini par payer.
Voilà donc pour les internationaux et ce week-end se jouait également le dernier match destination U20. Comment se termine le tournoi pour nos Bleus ?
Malheureusement, plutôt mal. Les champions du monde en titre terminent avec une troisième place au classement, mais surtout offrent la victoire sur un plateau aux Anglais. Un crunch qui part mal avec un essai anglais dans la première minute. Les Bleuets se sont vite rattrapés et dominent la rencontre presque jusqu'à la fin. Mais trop d'imprécisions et de fautes et des décisions arbitrales discutables, ils finissent par se faire distancer par leurs ennemis de toujours. De très belles actions pourtant du côté français, mais ça ne suffira pas. Défaite de l'équipe des moins de 20 ans. Ça reste tout de même un très bon signe pour l'avenir du rugby français. Parce qu'ils en ont dans le ventre, ces jeunes.
Merci Ernestine pour ce bilan des 6 nations, plein de rebondissements pour la plupart des équipes. Place maintenant au régional. Revenons donc sur l'opposition entre le TFC et l'Olympique Lyonnais. PA, un match fou qui a vu les Lyonnais s'imposer sur le fil.
C'était une ambiance comme on en a l'habitude au stadium depuis la remontée de Toulouse en Ligue 1. Le TFC soufflait ses 87 bougies vendredi soir, mais l'OL est venu gâcher la fête. Les Toulousains sont pourtant revenus de loin en tête à la pause grâce à l'inévitable Alexandre Lacazette de retour de blessure. L'Olympique Lyonnais a tangué dès le retour des vestiaires, puis a cédé à deux reprises. D'abord sur l'égalisation de Thaïs Daïnga, servi par Warren Kamanzi, puis avec ce pénalty obtenu par l'homme en forme en ce moment côté violet, Yann Gbo. Transformé par Vincent Siro, Toulouse renverse la partie en moins de 5 minutes. Mais le joueur qui a bel et bien fait la différence dans cette partie, c'est Ryan Cherki, le sauveur pour les Lyonnais. Entré en jeu après le deuxième but des locaux, le franco-algérien a mis 10 minutes à s'illustrer. Trouvé par un autre entrant, Mama Baldé, Cherki égalise d'une frappe en force glissée entre les jambes du Pichoun Rest, 77ème, 2 partout. Le joueur de 20 ans dépose ensuite un sublime ballon sur la tête d'O'Brien, 3-2, score final.
Et côté tactique, qu'est-ce qui n'a donc pas fonctionné pour les violets pendant cette période où ils étaient dominés ?
Alors un geste sur lequel j'aimerais revenir, Thomas, c'est cet arc-en-ciel d'Aaron Donum vers l'heure de jeu, mais qui au final n'a rien apporté. Alors à ce moment-là, les violets menaient 2-1, mais ce geste n'est pas anodin. Les Toulousains, pendant leur période de domination, se sont peut-être trop enflammés. C'est d'ailleurs ce qu'a confié Carles Martinez Novel en conférence de presse, avouant, je cite, que ses joueurs étaient un peu trop confiants à 2-1. Et puis il y a aussi la sortie de joueurs RNT comme Siro ou Gbo, qui étaient de vrais suppléments d'âme pour cette équipe. Un Franck Magri ou encore un Babika n'ont sans doute pas assez apporté côté violet. En tout cas, pas autant que leurs homologues lyonnais. Pierre Sage se félicitait d'ailleurs, je cite, des entrants qui ont redressé l'histoire de notre match. Le piège tactique du technicien lyonnais s'est refermé sur les locaux. Le passage du 4-3-3 au 4-4-2 a sûrement fait une différence. Alors bien sûr, ce ne sont pas que les remplaçants qui ont fait cette diff. Les Toulousains avaient démarré ce match en 3-4-3 et la position défensive à 5 a montré ses limites lorsque les Rodaniens combinaient au centre de l'attaque. Mais il y a quand même du positif à retenir pour les Toulousains, même s'ils n'ont pas tout réussi en première période. Les pistons Camanzi et Soiseau se sont beaucoup proposés sur les côtés, jusqu'à créer des occasions dans la surface lyonnaise. Ils sont malheureusement pour eux tombés sur une charnière O'Brien-Chaletatsar solide dans l'ensemble. Alors pour l'instant, la situation n'est pas alarmante côté violet dans la course au maintien, mais il ne faudrait pas concéder un troisième revers de suite au risque de voir des concurrents directs revenir. Quant aux rouges et bleus de Pierre Sage, ils ont pris une sérieuse option sur leur survie et entrevoient du bout d'un œil les places européennes.
Merci Paul-Adrien pour ce sujet spécial TFC, on enchaîne tout de suite avec l'actualité en bref.
Bonjour Thomas, clap de fin pour la saison de biathlon. Le Norvégien Johannes Bø s'offre son 5e globe de cristal. Le meilleur biathlète de la saison se rapproche à 2 unités du record de Martin Fourcade. Chez les filles, c'est l'italienne Lisa Vitozzi qui remporte son premier classement général devant Lou Jean Monod. La française se console néanmoins avec le petit globe de la Mastart obtenu après sa victoire dimanche. 27 minutes et 7 secondes, c'est le nouveau record d'Europe du 10 km sur route. Une performance signée par le français Jimmy Gressier, déjà détenteur du meilleur chrono européen sur 5 km. Rendez-vous au JO où il tentera le doublé 5000 et 10 000 mètres. Du cyclisme maintenant. Tadej Pogacar a tenté, mais l'équipe alpecine de Koenig était la plus forte samedi sur Milan-San Remo. Au terme de l'émission la plus rapide de l'histoire, le Belge Jasper Philipsen a réglé un petit groupe au sprint pour remporter son premier monument. Pogacar se console, lui, avec la 3e place et a noté le retour en forme de Julien Alaphilippe qui termine 9e. Ce n'était pas arrivé depuis 20 ans. Toutes les équipes encore engagées en Ligue des Champions ont déjà participé à une finale lors des 20 dernières éditions. PSG Barça, Atlético Dortmund, Arsenal Bayern ou encore Real City, les quarts de finale aller promettent du beau football les 9 et 10 avril prochains. Enfin du tennis, Carlos Alcaraz conserve son titre à Indian Wells. Le prodige espagnol remporte son 5e Masters 1000 après sa victoire en 2-7 contre Daniil Medvedev. C'est le premier trophée en 2024 pour le numéro 2 mondial, de bon augure avant le tournoi de Miami mercredi. Chez les femmes, c'est la numéro 1 mondiale Iga Świątek qui a triomphé en battant Maria Sakkari.
Merci François pour ce résumé, passons désormais à la carte blanche. L'hymne à la Beaujoire dans EJT Sport, comme quoi tout est possible. Timothée, tu vas nous parler d'une belle performance du football français, un exploit chez les jeunes.
Exactement, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour Nantes, ça veut dire beaucoup. Les jeunes Canaries, on pourrait presque les appeler les Poussins, ont réussi un exploit retentissant mardi soir en se qualifiant pour le Final Four de la Youth League. Face aux jeunes de Copenhague, les hommes de Stéphane Moreau ouvrent rapidement le score par Tabibou, mais les Danois reprennent rapidement le dessus et Copenhague mène 3-1 peu après la demi-heure de jeu. C'est là qu'intervient le premier tournant. Carton rouge contre Olsson, le défenseur central de Copenhague. Les Danois doivent jouer 1h10 et la Beaujoire commence à y croire. Nantes revient dans le match, mais rate le pénalty du 3-2 juste avant la mi-temps. Au retour des vestiaires, les Canaries sont métamorphosés. Nantes réduit l'écart, égalise à l'heure de jeu, on part au tir au but et c'est l'inévitable Tom Mabon qui sort 3 pénaltys pour donner la victoire à Nantes. C'est déjà la 4e séance remportée par les jaunes et verts dans cette Youth League. Les Nantais verront Nyon le 19 avril.
Et le tout devant plusieurs dizaines de milliers de spectateurs conquis à la Beaujoire.
Ouais, absolument, c'est une des particularités de ce parcours. Les jeunes du FCN jouent depuis le 2e tour dans l'entre des grands. L'occasion pour eux de battre à plusieurs reprises des records d'affluence pour des matchs de jeunes. Ils étaient 12 000 contre Helsinki en novembre et 19 300 mardi à 18h pour supporter les Canaries de la Beaujoire dans ce quart contre Copenhague. C'est le record de France et c'est la 4e plus grosse affluence de la compétition. C'est bien simple, 6 clubs de Ligue 1 enregistrent une moyenne de spectateurs inférieure à l'affluence de mardi à la Beaujoire. Et les résultats sont là, les jeunes Canaris ont gagné autant de matchs à la Beaujoire que leurs aînés cette saison.
Mais bravo à eux, hein, mais j'imagine qu'un tel parcours n'arrive pas tous les jours pour le FC Nantes.
Bah non, justement. Ce n'est que la deuxième fois qu'un club français accède au Final Four de la Youth League. La dernière fois, c'était le PSG, en 2016. Et dans l'effectif parisien, il y avait quelques beaux noms. Hein. Nkunku, Ikoné, Fodébalo Touré ou Jean-Kévin Augustin. Les Parisiens avaient alors perdu 2-1 en finale contre le Chelsea de Mason Mount, Tomori ou Taimi Abraham. Donc c'était une belle équipe quand même. Mais aller en demi-finale de Youth League, c'est a priori le signe quand même d'une génération dorée. On a souvent vu des clubs comme Benfica ou Salzbourg se rendre en finale et sortir des joueurs fabuleux de la Youth League. Ça annonce des jours prometteurs pour le FC Nantes, dont les U19 sont clairement les meilleurs en France. Mais attention, parce que ce parcours pourrait être un faux semblant. Les Nantais ont gagné 4 séances de tir au but, et ça, c'est pas courant.
Et est-ce que ce beau parcours en Youth League annonce un futur prometteur à la jeunesse nantaise, et je vais même aller plus loin, au foot français en général?
Bah, c'est peut-être bien le retour du style à la nantaise. Un beau jeu qui s'appuie sur la formation. Certains U19 ont déjà intégré le groupe pro, c'est le cas de Stredaï Rapua, qui a joué 8 matchs avec la Une. Bastien Mepiou ou Nathan Zézé, les deux centraux, Nathan Zézé qui a prolongé son contrat aujourd'hui d'ailleurs. D'autres y arriveront bientôt, comme Tom Mabon le gardien ou Louis Leroux le milieu. Il y avait même une continuité qui était évidente quand Pierre Aristouille avait pris le contrôle de l'équipe 1 alors qu'il était le coach des U19 pour sauver l'équipe en Ligue 1. On peut espérer d'ici 3 à 4 ans quand même des joueurs qui, une fois arrivés à maturité, pourront intégrer l'effectif nantais. Et les autres pourront être vendus quand même à des prix intéressants. L'idée pour Nantes, c'est quand même de ne pas répéter l'erreur Colomoni, partie libre et revendue au PSG 90 millions une année seulement après. Dans une semaine quand même, où Nantes est resté barragiste, où Antoine Kumboiré a remplacé Jocelyn Gourvennec, où la Brigade Loire a fêté ses 25 ans, et ben le FC Nantes de Valdemarquita arrive peut-être à un tournant avec ses jeunes. Alors rendez-vous le 19 avril à Nyon contre l'Olympiakos pour le Final Four.
Voilà pour la formation française et la belle performance des jeunes du FC Nantes. Place maintenant à notre nouvelle rubrique, Cap sur les JO. Alors Pierre, on a entendu parler de nouveaux sports pour les Jeux Olympiques de 2024, présente-les-nous.
En fait, chaque comité organisateur a la possibilité de mettre des sports dits « additionnels » à son menu. Il y a 4 ans, enfin 3 dans les faits avec le Covid, Tokyo avait fait le choix du surf, de l'escalade et du skateboard. Cette année, il y en a 4 des sports additionnels. Il y a donc un petit nouveau, le breakdance ou breaking, le nom officiel. Pas la peine de chercher dans les manuels d'histoire, c'est inédit aux Jeux Olympiques. En fait, le comité encourage les sports dits « en phase avec leur époque », en plus des sports traditionnels, et grâce à ça, on dit « bienvenue au breakdance ».
Et donc, à quoi ça ressemble le breakdance aux Jeux Olympiques ?
Bah déjà, faut réviser un peu son anglais. Faut savoir que c'est une discipline qui vient des States, on a donc tout un jargon qui va avec. Pour faire simple, les athlètes, qu'on appelle les B-Boys et les B-Girls, s'affrontent dans des battles et devront improviser des figures sur le son du DJ. Les figures, qu'on appelle des power moves, pourront être des coupoles, des six steps ou encore des freezes, le tout devant le regard affûté du jury.
Alors c'est très bien tout ça, mais est-ce que la France a des chances de médaille ?
Oui, et elle porte un nom, Sissi, Sia Dembélé de son vrai nom. Faut savoir que sport olympique ou pas, tout le monde a son surnom en breakdance. Big Girl Sissi, à 16 ans seulement, elle fait partie des favoris pour l'or l'été prochain. Elle arrive en équipe de France en 2022 parce qu'avant, elle était tout simplement trop jeune. Elle a fait 3e au Mondiaux de Louvain en septembre dernier et ce sera vraiment l'une des athlètes à suivre en breakdance.
Merci pour ce petit point breakdance et dans les autres sports additionnels.
Il y aura de l'escalade divisée en 2 épreuves, le bloc et la vitesse d'un côté et l'épreuve de difficulté de l'autre. Les athlètes participent à l'une ou l'autre des épreuves et niveau médaille, c'est pas super bien parti. En tout cas, moins bien qu'en skate. Parce que là, on peut compter sur Aurélien Giraud, qui a été sacré champion du monde il y a à peine un an et qui en a profité par la même occasion pour enfiler le costume de favori. C'est le premier Français à réussir un tel exploit quand même. Il avait brillé sur l'épreuve street et avait vraiment impressionné les jurys. Au JO, il y aura aussi cette épreuve où les skateurs auront affaire à des obstacles urbains, des rampes, des bancs, des escaliers, le tout sur la place de la Concorde. Puis moi, enfin, je sais pas vous, mais je me mettrai à l'heure tahitienne cet été, parce que oui, le surf aura lieu là-bas, dans un spot mythique en plus, à Teahupo. J'ai vraiment hâte de voir les surfeurs étaler leur figure devant le jury. D'ailleurs, le jury notera aussi la vitesse et le flow des surfeurs. Même si les favoris sont pas français, on en profite parce que c'est que la deuxième fois que les surfeurs ont rendez-vous avec les JO après Tokyo.
On surfe sur la vague et on a hâte de les voir cet été. Merci Pierre pour cette présentation. C'est désormais l'heure du quiz.
Ah oui, la bonne courage. Qui est meilleur? Qui est meilleur?
C'est le meilleur.
Ah, si il est un peu répond parce qu'il est...
Excusez-moi, je m'énerve, mais parce que des fois il me gonfle.
Bienvenue messieurs pour ce quiz. J'accueille à ma gauche Timothée et Pierre. À ma droite, Paul, Adrien et François. Prêts?
Bien sûr,
on est là.
Prêts, allez.
Impeccable. Question numéro 1. Je précise que je veux bien que vous me laissiez finir la question avant de donner la réponse. Le PSG va affronter le Barça en quart de finale de la Ligue des Champions. Lors de leur affrontement mythique de 2017, le PSG avait perdu le match retour 6-1. Je vous demande de me donner l'identité des 6 buteurs de ce match.
Ok, donc Suarez, Kurzawa contre son camp, Messi sur penalty, il y a ensuite Neymar sur coup franc, puis on a Neymar sur penalty et Sergio Roberto.
Il en manque un.
Lionel Messi sur une enroulée, non?
On non. A Messi sur un deuxième Messi sur penalty.
Thiago Silva contre son camp.
Double Messi.
Il y a
Luis Suarez.
Il m'a donné 5 buteurs, il y en a un 6e.
Luis Suarez.
Mais Iniesta sur le CS de Kurzawa.
Non, c'est Kurzawa. Il y a eu 7 buts marqués.
Ah, Edinson Cavani. Edinson Cavani. Edinson la reprise Cavani. De volée d'Edinson Cavani.
Ah oui, mais tu nous dis les 6 buteurs.
J'ai dit les 6 buteurs de ce match. Je n'ai pas précisé de quelle équipe. Le point va à Paul, Adrien et François. Bravo, et messieurs. 6-1. Question numéro 2 concerne le ping-pong. Outre la domination asiatique, quel pays européen, à part la France, place 2 joueurs dans le top 15?
L'Allemagne.
C'est une bonne réponse, Paul, Adrien. Bravo, c'était effectivement l'Allemagne.
Impressionnant.
2-0 pour la doublette François-Paul-Adrien. Question numéro 3, messieurs. L'Italie a impressionné durant ce tournoi des 6 nations. Je voudrais le bilan de la nationale complet.
2 victoires
et un nul.
Un match nul
et 2 défaites.
2 défaites.
Je vais donner la victoire à Paul-Adrien et François qui ont été les plus prompts pour me donner le bilan complet de l'Italie. Question numéro 4 à présent. Je voudrais le score final... de score exact de la finale, pardon, entre Medvedev et Alcaraz.
7-6-6-1.
C'est une bonne réponse. Bravo François, bravo PA. 4-0. Est-ce que vous allez nous faire une manita, messieurs?
On va essayer.
Question numéro 5. Le Milan-San Remo s'est déroulé ce week-end. Donnez-moi la distance exacte.
283.
269.
Non, non.
287.
Non, 270. On n'est pas loin.
265.
Avec 287.
289.
269.
277.
298.
298, c'est la bonne réponse. Bravo François et Paul Adrien. Vous remportez cette édition du quiz. Bravo à vous messieurs. C'est la fin de cette émission. Je vous remercie de nous avoir écoutés sur nos plateformes. Vous pouvez retrouver tous nos contenus sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et X. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode. Et d'ici là, vive le sport. Mêlée.